Sache qu'il y avait autrefois, dans les temps bien anciens, trois hommes qui étaient les plus fieffés coquins de la terre. Ils étaient chacun très savants dans leur art et ils avaient décidé de se réunir le soir dans une petite chambre qu'ils louaient ensemble et là, ils buvaient au grand roi. Mais ce n'était pas cette occupation qui les réunissait véritablement. C'était de manger du haschich. Et quand le haschich commence à former dans leur esprit tant et tant de nuages, alors ils élaboraient des tours incroyables. Et je vais te raconter le tour le plus original et le plus dangereux. Ils décidèrent dès le lendemain de se promener aux abords du palais royal et de s'insulter. Mais comme ils étaient savants dans leur art, ils étaient aussi savants dans la langue, et ils trouvaient des injures que même les âniers ne connaissaient pas. Aussi, tous les âniers s'étaient réunis pour les écouter, pour en apprendre. Mais un auditeur qui n'aurait pas dû écouter, mais qui en fait était le destinataire de ces insultes, le roi lui-même a fini par être gêné par ces bruits. Cela aurait presque pu ressembler à ces pépiments d'oiseaux, vous savez, qui se réunissent sur des arbres et qui vous insultent. Hier, ils nous ont empêchés d'écouter. Ce soir, ils se sont éloignés. Alors que j'ai besoin d'eux. Vous voyez comme la vie est mal faite. Hein. J'étais regardé, ils se sont mis de l'autre côté, carrément. Et ben voilà. Le roi, lui, est sorti. Il a demandé qu'on amène devant lui ces trois personnages. Et il leur demande la raison de cette querelle et de ces insultes. Voilà, dit celui qui était le plus âgé, au grand roi, nous sommes tout à fait désolés d'avoir troublé ta paix, mais sache que nous sommes chacun le meilleur dans notre art. Et nous étions en train de décider, de discuter sur celui de nous trois, qui est sans conteste la couronne sur la tête des deux autres. Et nous n'étions pas d'accord, évidemment. Ah bon? Et dites-moi, quelle est donc la nature de votre art? Voilà. Chacun, nous sommes généalogistes de métier. Il nous est possible de connaître les ancêtres réels et cachés. Moi, dit le plus jeune, je connais les pierres. Le père et la mère de chaque pierre. Et le père et la mère du père et la mère de chaque pierre. Et ainsi, jusqu'au début des temps. Je suis capable d'un seul coup d'œil et d'un seul effleurement du doigt de tout connaître. Moi, dit le deuxième, je suis généalogiste pour les chevaux. Il me suffit d'entendre le galop d'un cheval pour tout connaître de lui et de ses ascendants et même de ses descendants. Moi, dit le plus âgé, je suis généalogiste de l'espèce humaine et il me suffit de regarder ou même de sentir près de moi pour tout savoir. En général, ce que chacun sait et surtout ce qu'il ne connaît pas. Et le roi leur a proposé de les accueillir dans son palais et d'attendre que le hasard, la destinée, la chance permettent que chacun puisse exercer son art. Comme cette histoire est très bien faite, vous pensez bien qu'en peu de temps, eh bien, chacun va pouvoir exercer son art. Donc on va les installer chacun dans une chambre. Il faut simplement savoir que c'est que le roi a demandé que l'on serve à discrétion à ces trois invités des galettes de pain et de la viande en conséquence. Et de l'eau colorée. Et voilà pour le premier, qui un jour est invité par le roi à venir le visiter dans la grande salle. On vient d'offrir au souverain une pierre d'un très grand prix. Et le roi est avide de connaître la vérité sur cette pierre et sa nature. Et le généalogiste, posant ses gestes, avançant d'un air relativement souverain, sans pour autant faire ombre au roi, bien sûr, dit au grand roi, me permets-tu d'inviter mes deux compagnons afin qu'ils puissent voir à quel point je suis la couronne sur la tête, sur leur tête. Et lorsque les deux généalogistes approche à leur tour, il dit au grand roi, « Montre à mon petit doigt. » Et on soulève le tissu qui cachait la pierre. Et les yeux fermés, le généalogiste a effleuré du bout de son petit doigt la pierre. Il a dit, « Ah, grand roi, éloigne de moi cette horreur et cette pourriture. » « Comment a-t-il, roi ? Cette pierre me vient d'un roi voisin. C'est la plus belle pierre de son trésor et tu oses dire, tu oses parler de pourriture ? Ô grand roi, je ne peux dire que la vérité. » Et à ce moment, en ce roi, se soulève la colère. Comme un grondement, comme une cavalcade, comme une soufflerie déréglée. Et quand enfin il peut parler, c'est pour prononcer les mots définitifs. Qu'on l'empale ! Et le bourreau, ordonnateur du pal, est arrivé. C'était un géant qui attrape le généalogiste et qui déjà posait le pauvre homme pour que la vrille puisse entrer par où elle doit et surtout ressortir par où elle doit. Je vous en prie, ne faites pas les effaroucher. Je suis bien certain que vous êtes capable de raconter des histoires encore plus sordides que celle-ci. Je vois la main sur la bouche, ainsi, enfin. Eh bien, je vais vous frustrer parce que, vous voyez, cet homme n'a pas été empalé. Parce que le roi avait comme compagnon de ce côté un vizir, une sorte de ministre, de conseiller, qui était un vieillard vénérable et qui était réputé pour sa sagesse et pour sa tranquillité, qui dit au grand roi, sans doute le supplice que tu viens de prononcer est-il légitime, mais nous pourrions peut-être vérifier et lui demander plus de précision sur cette pierre. Car au jour du jugement dernier, tu serais comptable de la mort de cet homme. Tu as raison. Ô toi, dis-moi, que peux-tu dire de plus sur cette pierre ? Ô grand roi, je peux dire sans risque de me tromper que cette pierre est totalement pourrie et qu'elle contient en son cœur un ver. Et à ce moment, le bourreau porte-glaive s'est approché et d'un seul coup, il a tranché la pierre en deux. Et on a pu voir la pierre s'ouvrir et un ver sortir. Et le roi, totalement interdit, comment as-tu pu voir ce qu'aucun œil n'a vu ? Au grand roi, c'est la science. Et c'est ma science. Et c'est la vue de l'œil que j'ai au bout du petit doigt. Et le généalogiste a eu droit à double ration de galettes et de viande et de l'eau à discrétion. Voilà pour lui. Mais peu de temps après, on a offert au roi un cheval magnifique, comme vous pouvez vous y attendre. Et le roi invite donc le second généalogiste, qui lui-même demande que les deux autres viennent. Et il a simplement jeté un regard indifférent à la bête pour dire au grand roi, « J'ai vu, et j'ai bien assez vu. Qu'oses-tu me dire ? Ce cheval vient des steppes lointaines, des montagnes arides. C'est l'un des meilleurs coursiers au monde. Ô grand roi, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. » Ô grand roi, bien sûr, sans doute ce supplice est-il. Vous pourrez peut-être vérifier la chose. Tu as raison. Donc on fait descendre le généalogiste et il dit voilà, c'est très simple. C'est que, en vérité, voilà, je dois vous annoncer que, en fait, dans ce conte, il y a deux versions. Il y a la version racontée par un homme et la version racontée par une femme. Donc, dans la version racontée par une femme, vous entendrez dire que, en vérité, la mère de ce cheval est d'une qualité absolument parfaite. Quant au père, cela est plus douteux. Vous m'excuserez de raconter une version masculine disant que le père de ce cheval est incontestable et possède toutes les qualités. Quant à la mère, eh bien, il faut bien dire ce qui est, c'est que c'est la femelle d'un buffle marin. Et cela fut facile à vérifier car chaque fois que l'on offrait un cheval, on offrait également une sorte de rouleau dans lequel était disposé un parchemin, et ce parchemin contenait l'histoire de ce cheval. Et on a pu lire qu'un jour, le père, Étalon, était ainsi accompagné de quelques gardes quand il a vu une femelle de buffle marin sortir de la mer, et il a faussé compagnie à ses gardes pour honorer la femelle que l'on capture et qui met au monde un poulain magnifique, qui possède les qualités du cheval et les qualités du buffle marin. Mais comment as-tu pu découvrir ce secret qu'aucun œil au monde ne pouvait voir? Au grand roi, c'est très simple. Regarde l'extrémité du petit ongle, du petit doigt de ce cheval-là. Et elle était légèrement inclinée. Cela m'a suffi. Le roi est très impressionné par cette science, par ce savoir et par le regard négligent jeté ainsi. Double ration de pain, de viande et de loi à discrétion. Et pour ce qui est du troisième généalogiste, en vérité, il n'est pas besoin au roi qu'on lui offre qui que ce soit pour qu'il commence à s'interroger. Il dit, mais puisque les deux autres, d'un coup de doigt et d'un coup d'œil, peuvent deviner, peuvent voir ce qui reste caché au monde, le troisième qui m'a longuement parlé, doit-il déjà savoir? Je vais le mettre à l'épreuve. Il le fait appeler en disant, voilà, tu vas m'accompagner dans le palais des femmes, et lorsque nous serons en présence de la favorite, je lui demanderai en un instant de simplement soulever le voile qui cache sa beauté, et tu devras tout me dire. Et le généalogiste répond au grand roi, mais nul n'est besoin pour moi de voir au-delà du voile, il suffit de me tenir à ses côtés. Et donc, on mène le généalogiste dans le palais des femmes, et lorsqu'il se trouve en sa présence, il ne l'a pas regardé. Simplement, il a dit « je sais ». Et ils reviennent tous deux. Au grand roi, je dois te dire ce que je sais, c'est que cette jeune femme qui est ta favorite est une jeune femme de bonne famille en vérité. Simplement, sa mère est une fille de putain. Au grand roi, nous pourrions peut-être vérifier avant que tu donnes l'ordre que nous a donné. Tu as raison. Et on appelle, non pas la favorite, mais le père de cette jeune fille. Et le roi lui dit, toi, raconte ce que tu sais sur ta fille. Et l'homme répond au grand roi, mais la vérité est simple à dire. Lorsque j'étais plus jeune, avec mes compagnons, nous parcourions le désert. Et nous allions ainsi d'un endroit à l'autre. Et il nous est arrivé, une fois, par jour de grande chance, de croiser la route des femmes libres, les femmes du désert, qui offrent leur corps pour quelques pièces, et qui sont d'une telle noblesse, d'une telle force, d'une telle beauté, qu'à les voir, on a l'impression de contempler la souveraineté. Et vois-tu, lorsque ces femmes se sont éloignées, et lorsqu'elles disparaissent, l'on découvre, caché dans un endroit, un bébé, une petite fille, sans doute oubliée. Et là, moi, lorsque j'ai vu ce bébé, j'ai senti que je pouvais l'accueillir en ma maison. Et elle a grandi. Le roi est un peu déçu d'apprendre la vérité sur cette jeune fille, mais il est rassuré, car en vérité, c'est bien sa mère qui était putain et non pas elle. Donc, l'honneur est sauf. Mais il n'est pas rassuré pour ce qu'il est en train de penser. Et vous pensez à la même chose que lui, bien sûr. Dis-moi la vérité sur ma naissance et sur mes ancêtres. Au grand roi, je sais déjà. Mais je vais te demander, avant de parler, que tu poses dans la main qui est ouverte, celle-ci, le mouchoir de la sécurité. Le mouchoir de la sécurité, c'est simplement une preuve que lorsque on le tient bien serré, on peut parler sans voir, sans risquer de se voir assis sur le pal ou de voir sa tête tranchée avant même qu'on ait eu le temps de terminer la phrase que l'on vient de commencer. Le roi accorde, Et lorsque le mouchoir est bien serré, il dit au grand roi, je me permets de te donner un conseil, il serait judicieux que tu fasses sortir de cette salle tous ceux qui n'ont pas à entendre la vérité. Et ainsi, chacun est sorti. Quand enfin il est seul devant le roi, il dit, en baisant la terre devant ses pieds, au grand roi, tu es un fils adultérin et de mauvaise qualité. Et cette fois, pas de réaction, pas de colère, simplement un sabre décroché par le roi, simplement dans le palais des femmes et dans le palais de la reine mère. Le roi qui entre et qui s'approche de sa mère, le sabre dressé. Mère, dis la vérité à ton fils qui la demande. Qui est mon père? Et elle de répondre sans se troubler. Et mon fils, pourquoi ce sabre et ces menaces? Quand je peux te dire la vérité, il suffit qu'on la demande. Bien sûr, celui que tu croyais être ton père n'a jamais été ton père. Car si j'avais attendu que ça... Enfin, mon fils, je pense que tu peux entendre sa liqueur. Elle était inodore, incolore et sans substance. Aussi, alors qu'il commençait à m'accuser, moi, de mauvaise constitution, eh bien, je me suis attelé à la tâche et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu passer un cuisinier d'entre les cuisiniers les mieux formés. Aussi, l'ai-je invité à monter dans ma chambre et mon fils ne craint rien, cela ne durera que le temps que cela durera. Alors là aussi, il y a deux versions dans cette histoire. Il y a la version, honorable et sanglante. Une fois que la chose fut terminée, un poignard dans son cœur projeté et enterré en grand secret. Moi, je préfère la version plus... Enfin, on a payé largement cet homme en lui demandant de s'éloigner et il a pu ainsi jouir de la vie. C'est quand même meilleur pour lui. Et lorsque le roi entend cela... Il dit, et mon père n'en a rien su. Enfin, mon père, le roi, bien entendu, il n'en a rien su. Puisque 9 mois plus tard, il se réjouit de ta naissance, bien qu'il ait pu déplorer la perte de son cuisinier. De grandes fêtes furent organisées et j'ai pu te voir grandir. On dit alors qu'à ce moment, le roi, qui était parcouru par des colères si rapides, a senti... comme une sorte de grand calme l'envahir. Il a remercié sa mère, il a posé sur le sol le sabre qu'il tenait, il est retourné voir le vizir et en lui disant « Ô toi, installe-toi à cette place, tu as beaucoup plus de valeur que je n'en possède. » Et l'on dit qu'il appelle tous les dignitaires, tous les chefs d'armée, tous les grands personnages du royaume, en leur disant ceci. L'homme qui est à présent devant vous, à la place que j'occupais, devient votre roi, et je suis son esclave. Et l'on dit qu'il ira. Il a remercié sa mère, il a posé sur le sol le sabre qu'il tenait, il est retourné voir le vizir en lui disant, « Ô toi, installe-toi à cette place. Tu as beaucoup plus de valeur que je n'en possède. » Et l'on dit qu'il appelle... tous les dignitaires, tous les chefs d'armée, tous les grands personnages du royaume, en leur disant ceci. L'homme qui est à présent devant vous, à la place que j'occupais, devient votre roi, et je suis son esclave. Et l'on dit qu'il a baisé le bas de son manteau. Comme c'est étrange. 3 personnages, 3 fiefés coquins, décident simplement de perturber le roi par leurs insultes et l'un devient roi. Aussi, il appelle les 2 autres, chacun compagnon d'un côté et de l'autre, et l'on dit qu'il fut un grand roi. Quant à l'autre, celui qui était fils de cuisinier, on dit qu'il est parti, on dit qu'il est devenu mendiant et l'histoire ne parle plus de lui. Voilà, au grand roi, ce que je peux te dire sur cet homme, et sur ces 3 hommes, et sur la généalogie, et sur la connaissance, et sur la destinée qui permet à certains de monter et de descendre, et à d'autres de descendre et de monter. Et le roi qui entend ce récit reste songeur. Peut-être pense-t-il à lui-même et à son père, qui était l'un des hommes les plus puissants du monde. Et il pense aussi à son frère et à leur malheur et à ces hommes noirs. Ô Scheherazade, cette histoire qui aurait dû ôter de moi tout souvenir de cette scène inouïe, viens à présent de la remettre ainsi devant mes yeux. Tâche de l'éloigner.